Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Ça ne se voit pas encore en ce moment sur les thermomètres parisiens, mais n'en doutez pas, l'été a commencé. Avec lui, l'appel du soleil et des vagues, du farniente revigorant, de la détente contemplative et de la douce volupté. Voilà ce qui transpire du nouvel album de Laurent Bardenne. 11 titres comme 11 étapes d'un voyage musical qui coule comme une potion de bien-être, une sorte de baume du tigre. Un tigre d'eau douce, bien sûr, pour reprendre le nom de la formation que le saxophoniste français fait nager dans l'océan de ses compositions depuis maintenant 6 ans. Voici donc la bande son imaginaire d'une journée de bien-être dans un havre de paix salvateur et revigorant. L'Eden Beach Club de Laurent Bardenne et Tigre d'eau douce est disponible chez Heavenly Sweetness et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Laurent Bardenne.
Bonjour.
Le balafon, votre saxophone, la basse de Sylvain Daniel comme autant de clés du paradis, de votre Éden, pour reprendre le titre de ce morceau. Est-ce que pour vous, être musicien, c'est faire du bien aux gens ?
Tout à fait. C'est surtout avec Tigre d'eau douce, c'était une vraie volonté depuis le départ de donner un petit grain de sable pour que le monde soit meilleur. Enfin, de proposer ça.
Écrire de la musique qui fait du bien, pour cela, est-ce qu'il faut soi-même se sentir bien ?
Et malheureusement, c'est très dur à faire, donc c'est un process qui peut faire du mal. Parce que écrire des morceaux joyeux, c'est pas très très facile.
Ah oui, c'est plus difficile
beaucoup
que
plus
d'écrire
difficile.
Des morceaux tristes, mélancoliques ?
Oui. Donc, essayer de donner du feel good et de l'énergie, c'est vrai qu'effectivement, faut en avoir. Et ça peut se manger. Enfin, on peut se sentir un peu bouffé par tout ce que ça demande comme investissement.
Donc, ça veut dire qu'il faut prendre du recul sur soi-même. Ça veut dire qu'il faut faire la paix avec soi, se mettre dans une sorte de bulle.
Oui, c'est ça, exactement. Il faut rentrer dans une sorte de contemplation du monde et d'analyser, de méditer, et d'enlever toutes les mauvaises choses. Et ça demande beaucoup d'investissement. Ouais.
Alors ce disque, c'est une invitation au voyage, hein, Laurent Bardenne. Comme le poème de Baudelaire, vous prenez d'ailleurs les mots luxe, calme et volupté comme titre d'un des morceaux. Le luxe, le calme, la volupté, lequel des trois mots avez-vous le plus besoin ?
En ce moment, très bonne question. Je dirais le calme avec tout ce qui se passe autour de nous. On voit bien qu'il y ait un petit moment de répit.
Oui, c'est important. Donc le calme pour pouvoir composer, juste pour prendre ce recul par rapport à soi-même. Et pourtant, est-ce que le calme quand on fait la musique, il n'y a pas quelque chose d'antinomique ?
Ah, je vois, mais
composez pas dans le silence quand même, Laurent.
Non,
Bardenne.
Mais je. C'est assez paradoxal d'écrire de la musique parce qu'en fait, on réalise par exemple le disque. Là, je réécoute le morceau, mais je ne l'ai pas écouté depuis 2 mois. Parce qu'en fait, on crée comme ça une musique, on crée du temps de la durée d'un disque. Et après, le mastering, on l'écoute une fois et on lui dit au revoir.
Et il vit sa vie après.
Il vit sa vie dans le monde, dans l'espace, dans l'univers. Et il ne peut plus nous intéresser, personnellement.
Alors, bon, luxe, calme, volupté. Restons un petit peu sur la volupté quand même. Le plaisir, est-ce que c'est un élément clé dans votre vie de musicien? Parce qu'il y a un instant, vous me disiez quand même que ce n'était pas évident d'écrire une musique joyeuse. Est-ce que vous auriez la composition douloureuse, Laurent Bardenne?
Non,
ça arrive, ça.
Je suis un peu torturé. Donc, c'est vrai, non, j'ai besoin de prendre du plaisir très, très souvent, beaucoup trop, en mangeant trop, en buvant trop, je suis un peu trop dans l'abus, donc j'essaie de modérer tout ça, mais c'est pas, voilà, je suis dans la volupté absolue, incontrôlée.
Voilà, plaisir de composer ou plaisir de jouer?
Alors, de composer, j'adore composer, je joue très peu pour moi, même presque jamais, que dans le but de faire un morceau pour les autres, mais j'adore composer, passer du temps à réfléchir et à expérimenter. Ouais.
Alors justement, dans ce travail de composition, il y a les vibrations détentes, hein, pour le coup, sur cet album. La détente, elle est dans le rythme, elle est dans le swing, elle est dans le son.
La détente, c'est tout un art. Mon ami Arnaud Roulin, qui, je le salue, est au Brésil en ce moment en vacances, et son premier métier est vacanceur, comme il se définit. Toute une science, hein, de trouver le bon tempo, le bon groove, comme vous dites, le bon swing, pour qu'on se ressente bien. Dans le morceau Luxe, Calme et Volupté, on a beaucoup travaillé pour que quand ça rentre, ça fasse plouf, et qu'on se sente bien, par exemple. Et pour moi, quand même, la musique, ça reste quelque chose pour les gens où on met play et il faut que ça change un peu le fait de faire le ménage à la maison, par exemple.
Oui. Vous faites souvent le ménage en musique, vous écoutez aussi vos propres compositions, de temps en temps vous les testez en passant l'aspirateur, c'est pas très pratique quand même.
Exactement. L'aspirateur, je me suis déjà fait avoir, j'avoue.
mais la balayette, ça marche.
Mais la balayette, les vitres et tout ça, et voir s'il se passe quelque chose, effectivement. Thank you.
Cry, extrait d'Eden Beach Club, le nouvel album de notre invité Laurent Barzane et Tigre d'eau douce, avec ici la voix de la franco-sénégalaise Laetitia Ndiaye dans VMDN sur RFI. Alors vous êtes saxophoniste, hein, Laurent Barzane, comme John Coltrane, ça reste votre référence absolue, Coltrane ?
Oui, oui, c'est un peu le maître. Hein. Après, j'aime bien ses disciples et je suis disciple aussi de Albert Ayler. Pharoah Sanders, toute une génération comme ça. Quand on commence à les écouter, que ça nous plaît, bah on peut pas quitter cette famille.
C'est par le jazz et le blues que vous êtes entré dans le monde de la musique.
Le blues, oui, le blues avant, le jazz. J'écoutais beaucoup de Robert Johnson, par exemple, quand j'étais ado, ou les Blues Brothers, par quoi j'ai commencé. Ouais. Et puis, évidemment, après, il y a eu ces compiles Gitane Jazz, si ça vous dit quelque chose, où il y avait Dexter Gordon qui clopait. Donc, évidemment, je me suis mis à cloper et à écouter du jazz. Et ça a donné ça.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Avec aussi, dans vos jeunes années, deux références botaniques, si j'ose dire, Fougère et Coquelicot. Vous nous expliquez en botanique sans être vraiment botanique. Quoi.
Tout à fait. Allez-y. Ouais, j'avais jamais fait ça. Donc, Fougère, oui, voilà, je suis né à Fougère, j'ai appris la musique.
Fougère, ville en natale en Bretagne, hein, c'est
en
ça.
En Ille-et-Vilaine, en Bretagne, oui. Pas loin de, à une heure de la mer. Petite ville sympa. De la chaussure ouvrière. Et donc, il y avait un cabaret mythique qui existe encore, mais dont le patron, Patrick, a pris sa retraite et qui programmait, lui, des groupes tous les jeudis. Et comme j'étais débutant, apprenti, futur professionnel, je dirais, ouais. Étudiant, quoi, il m'invitait, j'avais le droit d'aller jouer avec tous les groupes qui passaient, donc dans tous les styles de musique, de la musique irlandaise, du reggae, du jazz, et voilà, donc ça m'a fait un peu ça m'a fait les dents.
Voilà, et le cabaret, c'est donc le Coquelicot, c'est le nom du cabaret.
C'est le nom du cabaret, pardon, ouais, voilà. C'était pas très clair.
Et c'est donc c'est là que vous avez fait vos premiers bœufs. Alors on dit un bœuf ou des bœufs ?
Des bœufs.
Voilà. Oui, on dit des bœufs, voilà, effectivement. C'est une bonne école, le cabaret. Qu'est-ce qu'on apprend ?
Oui, ben on apprend
dans ce genre de configuration-là.
On écoute par exemple un duo, je pense là, un duo irlandais qui fait la musique un peu comme dans le Titanic, là, l'espèce de danse très très rapide, ouais. Je sais plus, les gavottes. Il nous invite à jouer sur le dernier morceau du concert. Ben, il faut réussir à faire de la musique avec eux. Et donc, chaque fois, c'était une découverte.
Bon, après la Bretagne, vous montez à Paris, vous installez du côté de Montmartre, vous faites le conservatoire. Alors, votre prof de l'époque, saxophoniste aussi, François Janot, a dit dans Libé que c'était votre promo, que c'était une bande d'allumés, une promotion de barrés. Vous confirmez ?
Complètement. Ouais. Ils ont jamais recommencé à faire une promo comme ça parce que ça a donné une espèce de potions magiques dès qu'on se retrouvait tous ensemble avec De Pourquerie, avec tous les autres, Jean-Philippe Morel, et on faisait n'importe quoi, musicalement. Hein.
Ouais. Et liberté totale au conservatoire, c'est pas Jeannot, si fréquent aussi.
Jeannot, c'était sa force, c'était qu'il nous a dit, le premier cours de sax, il m'a dit... Je lui ai dit, oui, Coltrane, il utilisait quelle force de bec, d'anche et tout ça. Il m'a dit, mais ça va...
ta gueule.
Et il m'a dit, mais je ne suis pas du tout là pour ça, moi. Vous vous démerdez. Et puis, il s'est barré.
Oui, il n'est pas très académique comme formation.
Ouais, il était là, c'est vous qui allez me faire des cours. Et j'ai trouvé ça super. C'était vraiment un maître.
Alors, dans la promo, il y avait aussi Arnaud Roulin, qui fait partie de Tic d'eau douce. L'Orgamonde, c'est lui. Hein,
L'Orgamonde dans les deux précédents disques, et là au synthétiseur et au piano.
Voilà, il y a aussi Sylvain Daniel, on l'a cité, à la basse, Philippe Glaise à la batterie, Fab Borel-Bambi au percu. Alors, comment ça se dompte, un tigre d'eau douce, Laurent
Bardel ? Les trois, Arnaud Roulin, Sylvain Daniel, Philippe Glaise, c'est des copains de 30 ans maintenant, presque, je dirais. 25 ans. Et Fab Borel-Bambi, je l'ai rencontré en tournée au Congo. On jouait à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et il était un peu technicien, un peu musicien avec les instituts français et tout. On a sympathisé. Et il est revenu vivre en France et là, je l'ai embauché. Ouais. Et c'est un frère maintenant.
Voilà, alors sur cet album, le félin rencontre le reggae aussi, Poupa Jim en français, hein, c'est, s'il vous plaît. Et il croise aussi quelques autres animaux. We'll be right back. La marche des animaux de Laurent Bardenne et Tigre d'eau douce dans VMDN sur RFI. Et tout au long des 6 minutes 22 de ce titre, on mesure vraiment Laurent Bardenne, le formidable pouvoir évocateur de la musique et de votre musique. On a vraiment l'impression de voir toute la savane défiler. En fait, un compositeur, c'est un peintre.
Oui.
Vous apportez quelques touches de couleur sonore.
Je suis d'accord. Je me revendique du Douanier Rousseau.
Voilà, mais quand, mais quand vous composez, il y a des images comme qui vous viennent en tête.
Non, j'ai jamais de. Je suis pas assez mélomane pour composer sans but. Donc un morceau, c'est toujours une image. Sinon, si ça raconte pas d'histoire, j'arrive pas. Donc.
Bon, on attend en tout cas le film d'animation. Moi, vraiment, il y a plein de couleurs qui pourraient venir. Alors, vous avez travaillé avec beaucoup d'autres fauves de la musique, hein, d'eau douce ou d'eau salée. D'ailleurs, les fauves, il y a Philippe Catherine, Pharrell Williams, Oxmo Puccino, Camélia Jordana, Daniel Darc, Olivia Ruiz, Étienne Dao, Arthur H. J'en passe parce que sinon, on n'a pas le temps. En fait, vous êtes toujours laissé guider par vos rencontres, par vos envies. C'est comme ça que ça marche?
À un moment aussi, il faut manger. Ouais. Et quand il n'y a pas beaucoup de concerts pour personnellement, ben on va accompagner les chanteurs qu'on aime bien. Et puis c'est vrai. Après, on apprend toujours de quelqu'un, même si c'est pas forcément les artistes qu'on préfère le plus ou qu'on écoute le plus. C'est toujours un enseignement de voir quelqu'un qui travaille, d'entrer dans la tête de quelqu'un, c'est toujours important.
Et quand on est leader, devenir ou redevenir accompagnateur, c'est pas trop compliqué?
Pas
se
du
mettre
tout
au service de quelqu'un.
Ah, moi j'adore être au service. C'est faire la réalisation d'albums et tout, c'est un gros bonheur, c'est une autre pression, c'est que la personne soit heureuse et puis l'amour du travail bien fait.
Alors vous avez lancé tout un tas de groupes et de formations de jazz, aussi rock aussi, hein. Il y a la période Pony Hawks avec le regretté Nicolas Kerr. Le rock, c'était une parenthèse pour vous ou bien vous continuez aussi de vous en nourrir aujourd'hui, Laurent Bardenne?
Pas du tout, j'adore et ça me manque beaucoup, donc je réfléchis en ce moment, j'ai réfléchi.
Et les musiques du monde, est-ce qu'elles vous intéressent aussi? Est-ce que vous
Toujours.
Pourriez aller justement sur d'autres continents? Là, on a vu qu'il y avait aussi une dimension africaine singulièrement.
Oui, j'ai beaucoup écouté la musique éthiopienne des années 70, évidemment. Et puis, j'ai fait un disque avec ma formation Limousine. On a été étudier la musique du Molam en Thaïlande, musique du nord-est de la Thaïlande. Et on a rencontré les maîtres et enregistré avec eux. Il y a 10 ans maintenant.
Donc un musicien, c'est un peintre, c'est un compositeur, c'est un chercheur.
Un voyageur.
Aussi, un voyageur, voilà. Un expérimentateur.
Oui.
C'est comme ça que vous voyez toujours se mettre en danger?
Oui, il faut se mettre en danger. Et puis...
Mais avec luxe, calme et volupté quand même.
En fait, c'est comme c'est un métier quand même dur, c'est dur de travailler, enfin c'est dur de gagner sa vie au tout début, tout ça. Autant se donner les moyens de profiter de, par exemple, la chance de tourner à l'étranger, de découvrir des pays en donnant sa musique. C'est un paramètre très, très important pour nous.
Merci. Merci beaucoup, Laurent Bardenne. L'album Eden Beach Club chez Heavenly Sweetness et en concert avec Tigre d'eau douce, évidemment. Le 27 juillet à Jazz in Marciac, dans le sud-ouest, évidemment. Grand rendez-vous de l'été. Et le 10 novembre dans l'Est à Reims, en Champagne. Allez, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est avec Jeannette.
Je...
Le meilleur, Laurent Bardane et Tigre d'eau douce sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et avec nous autour de la table à Paris, José Marigno et Solène Gardré. Et en Corse, de l'autre côté de la mer Méditerranée, Lisa Giroldini. Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
Dans un instant avec vous, José, on va ouvrir une faille spatio-temporelle à bord du vaisseau spatial Bantu Spaceship en provenance du Zimbabwe.
Vous avez déjà le casque, alors objectif de cette mission rapprochée de planète musicale, la JIT, musique populaire du Zimbabwe, et la New Wave, donc européenne.
Vous, Solène, vous allez nous faire découvrir deux peuples qui vivaient il y a un peu plus de 400 ans aux Antilles, avant l'arrivée de Christophe Colomb.
Oui, les Taïno et les Kalinago, au cœur d'une exposition au musée du Quai Branly à Paris. Comme on peut malheureusement l'imaginer, ces peuples des Caraïbes ont été décimés par les Européens et puis en partie oubliés.
Mais on débute ce café gourmand avec un petit tour du côté de l'île de Beauté. Et oui, Lisa, vous êtes en Corse au festival Jazz à Ajaccio qui a débuté mardi et qui se termine demain soir.
Oui, c'est déjà la 22e édition de ce festival. Il se tient dans les hauteurs de la ville, au théâtre de verdure du Kazan. Alors, j'avais beau connaître ce festival depuis des années. Personnellement, je ne savais pas qu'il était entièrement bénévole. Les membres de l'équipe y travaillent dans une ambiance familiale. D'ailleurs, le festival vise à rester accessible à un maximum de monde. Son créateur et président, Marcel Giudicelli.
Nous, chaque année, en ouverture, on fait un truc magnifique, c'est qu'on a les élèves du conservatoire d'Ajaccio et on invite des élèves d'un conservatoire, par exemple cette année c'est l'UMI, et c'est eux qui font l'ouverture. Et le premier jour du festival, c'est gratuit, on invite des Ajacciens. Et là, cette année, il y a 60 jeunes avec un répertoire de jazz, avec des standards, tout, c'est magnifique. Ça fait 3 ans qu'on le fait, il y a un engouement. Et après, en fin de compte, il y a beaucoup de gens à la fin du festival qui viennent me voir, mais le jazz, c'est ça. Nous, on croyait que c'était que du bruit. Parce que nous sommes des passionnés, mais positifs, c'est-à-dire on n'est pas collectionneurs de timbres. Non, nous, on est sages, franchement. Mais c'est vrai, c'est parce que moi, j'aime le jazz, j'aime toutes sortes, moi, j'ai aucune critique.
Alors, vous l'avez entendu, Jean-François, ici, tout le monde se rassemble pour l'amour du jazz. Et après les standards du premier soir, on s'ouvre à un jazz plus contemporain. Mercredi, on a par exemple pu entendre la saxophoniste nigériane Camilla George. Elle vit à Londres et sa musique s'inspire à la fois de ses racines africaines, mais aussi de musique plus moderne comme la new soul ou le hip-hop. Elle est venue présenter son dernier album, Ibio Ibio.
Mon album est dédié au peuple Ibibio. Je suis née à Eket et c'est ma tribu. Donc tous les morceaux parlent de choses qui sont importantes pour nous. De notre religion, de notre culture, dans notre village. Côté mélodie, c'est de l'afrobeat, mais toujours avec du jazz et un certain équilibre. Je dirais que c'est un mélange entre des grooves africains et l'harmonie du jazz. C'est là qu'est mon identité nigériane. J'essaye d'utiliser des grooves traditionnels, certains viennent du Nigeria, d'autres sont plutôt ghanéens. Je pense qu'on retrouve également cette identité dans la rythmique et aussi dans les titres.
La programmation de jazz à Ajaccio met à l'honneur ceux qui font le jazz aujourd'hui. Sur scène, on retrouve évidemment les têtes d'affiche de ces dernières années, mais aussi les jeunes artistes de demain, Lisa.
C'est ça, Jazz à Ajaccio avance avec son temps, notamment en présentant le ténor de la nouvelle scène jazz française Léon Fall et son quintet de jazz fusion. Leur musique mélange des esthétiques de musique actuelle comme du hip-hop avec des traces de bebop, mais aussi de la house française assez dansante. C'est la première fois qu'il venait présenter sa musique à Ajaccio et il a transmis au public toute sa bonne énergie en dansant quasiment sur scène. Lui aussi venait présenter son dernier album Stress Killer.
Ce que je défends, c'est avant tout le plaisir de venir à un concert et donc du coup le plaisir de l'auditeur est vraiment au centre de mon projet. C'est-à-dire que j'essaye de peut-être emballer un peu les gens avec un jazz plus ordinaire au début de set, un peu un jazz rock justement, le plus classique on va dire dans cet album Stress Killer. Et ensuite on va doucement vers le dance floor pour un final, comme un feu d'artifice.
Le festival a aussi accueilli des ensembles plus grands. Hier, par exemple, vous avez vu, Lisa, l'octet de la pianiste Leila Olivesi.
Oui, Jean-François et 8 musiciens sur scène, dont 3 saxophones, ça prend tout de suite une certaine dimension. Depuis le public, on voyait une vraie complicité entre les musiciens. Ils interagissent beaucoup, dirigent tous un peu le groupe à un moment ou à un autre et laissent une grande place à de longues improvisations et même à la lecture de poèmes. Le tout donne un concert très vivant aux influences multiples. La pianiste Leila Olivesi.
Le jazz que j'écris, la musique en tout cas, elle s'inspire beaucoup du jazz des États-Unis. On va dire des années 50 jusqu'à nos jours, mais elle prend aussi ses racines dans la musique de Ellington des années 30, par exemple. Il y a eu aussi des influences de mes origines mauritaniennes, les influences de l'Afrique. J'ai pas fait une démarche précise pour aller vers cette musique, mais en fait, quand j'étais bébé et quand j'étais même dans le ventre de ma mère, elle mettait la musique sur son ventre et elle me passait de la musique. Je sais que j'ai beaucoup écouté de musique maure, le peuple maure qui est en Mauritanie, et puis aussi beaucoup de jazz, donc le résultat c'est peut-être un petit mélange entre les deux.
Et hier soir à Ajaccio, Lisa, vous avez terminé en apothéose avec le groupe cubain El Comité.
Exactement, El Comité qu'on entend qui a apporté le soleil de Cuba dans la nuit noire d'Ajaccio en fin de soirée. Les musiciens ont épaté le public avec la vitesse de leur jeu et la précision impressionnante de leur rythmique. Rodney Barreto, le batteur du groupe.
We play a lot of fusion, funk, afrobeat.
On joue beaucoup de fusion, funk, afrobeat, jazz, mais toujours en partant du jazz afro-cubain. Par exemple, tous les membres d'El Comité, on faisait partie d'un groupe de Chucho Valdés, c'est le maître. On a tous les influences de sa musique, c'est dans notre sang. C'est aussi une façon de poursuivre le chemin entamé par Chucho. Ça va se transmettre de génération en génération.
C'est vrai, il suffit d'écouter d'autres façons de jouer. Vous savez directement qu'on est cubain. Avec toute l'influence de la musique traditionnelle, de la musique folklorique, de la culture africaine qu'on a à Cuba. Vraiment, dès que vous écoutez le groupe, vous ressentez tout de suite la patte cubaine, la touche cubaine, vous voyez.
Et ce soir, ce sera au tour de Rhoda Scott Quartet et de Young Sunna de jouer au festival Jazz à Ajaccio. Et pour le dernier soir, demain, c'est Musique des Balkans au programme avec le grand compositeur et musicien Goran Bregovic.
Lisa Giroldini, envoyée spéciale de VMDN en Corse. Allez, on part aux Caraïbes à présent avec vous, Solène. On part découvrir des peuples qui y ont vécu il y a des centaines d'années.
Mon nom est Sylvanie Burton, présidente de la Dominique. Je suis la première femme, la première Kalinago et la première femme Kalinago à être présidente.
Vous venez donc d'entendre Sylvanie Burton, la présidente de la Dominique, une île des Caraïbes. Elle a été élue en septembre dernier et se revendique Kalinago. C'est un des 2 peuples avec les Taïnos qui sont présentés depuis début juin au musée du Quai Branly à Paris. Donc oui, c'est une exposition sur des sociétés et leur organisation d'il y a près de 400 ans. Mais leur héritage reste d'actualité, on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est pour dire que sous ces aires d'exposition avec des objets sortis de fouilles archéologiques, c'est aussi une exposition qui fait écho à une actualité. Mais effectivement, l'expo nous plonge dans le passé, au 15e siècle. Pourquoi cette date? Parce qu'après, Christophe Colomb est arrivé dans les Antilles et les 2 sociétés vont être très impactées, comme d'ailleurs toutes les Caraïbes qui sont un véritable écosystème. C'est d'ailleurs pour ça que les 2 peuples sont présentés en même temps. Ça n'a pas trop de sens de parler des Taïnos d'un côté et des Kalinago de l'autre, explique André Delpuech, c'est le commissaire de l'exposition.
Il faut considérer la Caraïbe amérindienne comme une unité. L'histoire coloniale a fragmenté cet espace. À l'époque amérindienne, c'est une sorte de continuum, c'est un archipel. Et la mer n'est pas une frontière, mais un lien. Et donc les Kalinago eux-mêmes allaient attaquer les Taïnos. Il y avait des échanges de biens, de prestige, du commerce. Donc ça circulait dans tous les sens, depuis le continent sud-américain et le Venezuela jusqu'à Cuba.
Mais alors, qui sont ces peuples? D'abord, les Taïnos.
Les Taïnos sont plutôt installés, on va dire, sur les îles du nord des Caraïbes, de Porto Rico à Cuba, en passant par Haïti et la République dominicaine, et les Kalinagos plutôt au sud, sur les petites Antilles, comme la Guadeloupe, la Martinique, et leurs sociétés sont très différentes. Les Taïnos sont organisés avec des chefs qui gouvernent de grandes provinces.
Il faut bien imaginer une société très hiérarchisée, dans une île qui est très peuplée, et avec une organisation et un aménagement du territoire remarquable. Il faut chasser de sa tête l'idée de petits groupes humains perdus dans la forêt. On sait que ces Taïnos avaient des champs sur des milliers d'hectares, avaient des canaux d'irrigation, ont construit des grands centres cérémoniels sur lesquels ils pratiquaient le jeu de balle. Tout un tas d'aménagements du territoire, des terrassements qui montrent qu'on a d'une part une population nombreuse, ce ne sont que des milliers de gens qui peuvent faire ça, et d'autre part une organisation vraiment très rigoureuse et sans doute aussi avec des sortes d'architectes ou de planificateurs. C'est vraiment une manière de montrer que ces sociétés avaient atteint un haut degré de développement et qui n'avaient rien à envier à l'Europe de la même époque.
Les Kalinagos, eux, sont des peuples guerriers organisés plutôt en villages indépendants qui mènent régulièrement des raids guerriers en pirogue contre les îles voisines. Ils en ramènent des biens mais aussi des femmes et des guerriers prisonniers. Et ce qui est marquant chez les Kalinagos, c'est qu'ils étaient cannibales. L'expo nous permet finalement de comprendre cette pratique qui est entourée de nombreux clichés. André Delpech.
Le cannibalisme n'est pas du tout une fonction alimentaire. On ne mange pas n'importe qui, on mange l'ennemi vaillant capturé au combat. C'est une manière d'ingérer sa force, comme de la même façon on allait manger son ancêtre, mais de manière très sophistiquée. C'est-à-dire qu'on allait brûler le corps, on allait réduire la poudre, garder cette poudre précieusement et régulièrement lors de rites, mettre cette poudre avec des aliments pour manger et ainsi récupérer l'esprit et la force de son aïeul. Donc vous voyez, on est dans des schémas quand même assez sophistiqués, très ritualisés. Et c'est vrai que les Européens ont caricaturé complètement cette pratique du cannibalisme, alors qu'on sait qu'en Europe, il y a eu du cannibalisme lors de sièges et de guerres et de famines. Et puis au même moment, en Espagne, on pratiquait l'Inquisition, on brûlait les hérétiques. Mais évidemment, ça a desservi les Kalinagos et la propagande coloniale les a présentés comme des êtres sanguinaires à réduire en esclavage.
Voilà, et pour l'anecdote, Christophe Colomb a aussi décrit les Kalinagos dans son journal comme des hommes avec un seul œil, d'autres ayant des museaux de chien. Donc effectivement, on n'est pas sur un niveau de véracité très élevé.
Dans la deuxième partie de l'exposition Solène, le visiteur apprend comment ces sociétés ont décliné jusqu'à quasiment disparaître.
Les Taïnos sont touchés en premier car c'est chez eux qu'accostent les Espagnols. Petit à petit, ils vont être tués ou réduits en esclavage ou alors décimés par des maladies ramenées par les Européens et auxquelles ils n'étaient pas préparés. Dans un premier temps, le Sud et les Kalinagos sont plus épargnés car les Espagnols s'y intéressent peu. Il n'y avait pas assez d'or sur les îles, selon eux. Mais finalement, au XVIIe siècle, ce sont les Français et les Anglais qui vont coloniser les petites Antilles et les Kalinagos vont connaître le même sort que leurs voisins. Pour autant, ils n'ont pas complètement disparu, on l'a entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, les identités Taïno et Kalinago sont revendiquées par leurs héritiers. Par exemple, sur l'île de Dominique dont nous parlions au début.
Ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs,
Dominicans are proud stewards.
Les Dominicains sont fiers de leur nature préservée. Nous avons protégé notre mère nature et croyons, comme nos ancêtres Kalinago, que tout dans la nature est connecté. Je suis un fier descendant des Kalinago qui se sont battus pour protéger notre île des colonisateurs.
Voilà par exemple un extrait de bande-annonce d'un film intitulé « Nouvelle Terre, le rêve Kalinago » où on entend le ministre de l'Environnement de la Dominique, Causier Frédéric, parler à la COP26 en mettant en avant son héritage Kalinago, André Delpech.
Aujourd'hui, cet héritage amérindien est rentré sur le débat identitaire, voire politique. Par exemple, à la Dominique, depuis octobre 2023, la chef d'État, Sylvanie Burton, est Kalinago. À ma connaissance, c'est la première fois dans la Caraïbe qu'une Amérindienne est nommée chef d'État. Ailleurs, comme à Porto Rico, on observe, grâce aux études génétiques, qu'une partie de la population est descendante de Taïno, et il y a une volonté de se réapproprier cette culture, et même dans certains milieux indépendantistes, l'idée de rejeter les États-Unis pour redevenir un État indépendant.
Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur ces peuples qui font partie de notre histoire, mais aussi de notre monde aujourd'hui, je vous conseille donc cette expo très simple, très bien vulgarisée, avec en plus, j'en ai peu parlé, des objets centenaires très bien conservés, comme souvent au Quai Branly, et ça vaut le détour.
Voilà, donc c'est à voir au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, au pied de la Tour Eiffel, jusqu'au 13 octobre prochain. C'était Solène Gardré dans VMD. Spaceships are buzzing. Shock ties, it's a blade up in my face. Bantu Cakes dans VMDN sur RFI. Bantu Cakes, c'est le titre phare de Bantu Spaceship, le collectif zimbabwéen qui atterrit en Europe avec un premier album éponyme. José, cette fusée venue d'Afrique australe conquiert les festivals à vitesse grand V grâce à un carburant musical mixte.
Oui, il est à la fois traditionnel et actuel. En plus, il ne subit pas le coup de l'inflation. Que demande le peuple ? Sérieusement, le style explosif de Bantu Spaceship combine héritage musical zimbabwéen et son contemporain occidentaux. Il faut dire qu'après l'indépendance de ce pays africain anglophone en 1980, les artistes sont lancés dans des expérimentations prospères. Ce collectif fait partie de ces jeunes artistes qui s'inspirent de cette impulsion créative exceptionnelle et la traduisent dans un genre hybride pour Joshua Chundiza, l'un des fondateurs de Bantu Speshki.
Le Jit Wave, c'est un mouvement qui est né dans les années 70-80, qui va emprunter des éléments de différents styles musicaux, Songura, Chimbling, Jit. C'est des styles très particuliers qui vont puiser dans les éléments acoustiques de la musique du Zimbabwe. Il y a un peu deux scènes qui sont actuellement au Zimbabwe. Une scène qui est très populaire et dans le sens commercial, et une autre qui est beaucoup plus expérimentale, dont ils font partie. C'est une scène qui englobe le cinéma, la musique, les arts vivants, qui n'est pas forcément diffusable à la radio locale. Not necessarily playable on radio.
Electro Sungura mélange donc musique électronique et Sungura. Alors, Sungura, c'est une sorte de pop local joué avec des instruments ancestraux.
Oui, très ancien. C'est un style proche du soukous congolais. Le groupe intègre aussi d'autres rythmiques emblématiques de Zimbabwe comme le Chimurenga, musique de résistance des années 70, et le Jit Jive, mélodie hyper populaire à Harare en 1980. Le tout porté par des chants poétiques et spirituels en langue Ndébélé qu'on entend.
Et avec cette profusion d'influences, Bantu Spaceship a donc façonné son propre univers musical.
Oui, il s'appelle New Jit Wave.
Le Jit Wave, c'est un mouvement qui est né dans les années 70-80, qui va emprunter des éléments de différents styles musicaux, Songura, Chimbling, Jit. C'est des styles très particuliers qui vont puiser dans les éléments acoustiques de la musique du Zimbabwe. Il y a un peu deux scènes qui sont actuellement au Zimbabwe. Une scène qui est très populaire et dans le sens commercial, et une autre qui est beaucoup plus expérimentale, dont ils font partie. C'est une scène qui englobe le cinéma, la musique, les arts vivants, qui n'est pas forcément diffusable à la radio locale. Not necessarily playable on radio.
peut-être pas diffusable à la radio locale, mais diffusable dans VMDN sur RFI, en tout cas, José.
Voilà, on est ouvert sur le monde, non ?
Voilà. Alors, ce groupe zimbabwéen, il rend donc hommage à ces rythmes du passé en leur influant des sonorités modernes. Donc.
En soufflant, oui. Résultat, 10 titres afro-futuristes qui nous font voyager dans le temps et l'espace. Avec ce premier album, l'équipage visionnaire du vaisseau Bantu Spaceship place la musique alternative du Zimbabwe en orbite avec succès, même si pour Joshua Chiundiza, ils sont encore vus comme des extraterrestres.
On est vu comme des ovnis dans le sens où la musique, en tout cas, qui marche vraiment là-bas, c'est une musique qui est vraiment inspirée des musiques qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Europe ou d'Algérie. Donc nous, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est de recentrer, de faire comprendre aussi à la nouvelle génération que le son original du Zimbabwe est un héritage très important et qu'il faut le remettre au goût du jour et pas aller chercher forcément dans d'autres pays. C'est aussi de rendre fier la jeunesse actuelle, et la jeunesse actuelle est très fiers de l'héritage culturel qu'ils ont et ils ont envie de voir cet héritage repris en main par des groupes actuels et le porter de manière moderne. Le son vient vraiment du mouvement JIT en essayant de le développer, de l'étendre dans le temps, dans la durée et de lui faire passer un espèce de niveau un peu supérieur. La définition qu'on pourrait donner de Bantu Spaceship, c'est que c'est une musique pop, africaine, traditionnelle et avec des synthétiseurs. C'est vraiment pas commercial.
Bantu Spaceship avec leur premier album dans VMDN, les Zimbabwéens qui sont en concert ce soir dans le sud-ouest de la France, à la Guinguette chez Alric à Bordeaux, si vous
Grande
passez
salle.
Dans le coin. Voilà, on les salue évidemment, les gens de chez Alric. Merci beaucoup, José. Merci également à Solène et à Lisa depuis la Corse. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi pour une semaine de spectacles vivants en direct du Festival d'Avignon et vous m'en direz des nouvelles.